Vous allez entendre un message provenant de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, au Canada. Une communauté de personnes transformées dans la foi en Christ.
Voir ce qu'on ne voit pas était notre série le mois passé. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire une conclusion, c'est que nous allons dans une transition. Notre série de ce mois s'intitule « Les actions qui suivent la foi ». Vous savez, il est plus facile de dire que de faire. Et les actes font croire aux paroles. Le bonheur, c'est lorsque les actes et les paroles sont en accord. Et j'aime... Vraiment, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a planifié toute la chose. Je pense d'avoir aujourd'hui Action Nouvel Espoir présenté un peu ce que nous voulons faire, non seulement pour cette Église, mais surtout pour la communauté qui nous entoure. Dieu seul sait combien de personnes sont en besoin. Dieu seul sait combien de personnes, quand ils sont en besoin, ne parlent pas ou n'osent pas chercher de l'aide par honte. Et Dieu merci de voir des gens comme Viviane et comme Christine qui prennent leur place dans l'Église afin d'être cette personne que Jésus aimerait que nous soyons dans la communauté. Aujourd'hui, le titre de notre message est « Pierre d'achoppement ». Pierre d'achoppement. Et ce message vient du cœur de Matthieu 13, 1, 23. Et à plusieurs reprises, Jésus a parlé à plusieurs personnes en disant qu'il ne voulait pas être une pierre d'achoppement pour plusieurs. Il ne voulait pas être une occasion de chute. Mais nous allons voir que Jésus nous démontre dans Matthieu 13, 1, 23, comment il peut devenir une pierre d'achoppement pour nous. Allons ensemble dans Jacques 2, 17, 19, pour ceux qui ont leur Bible. Et je lirai très rapidement, Jacques 2, 17, 19 nous dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » J'aime beaucoup lire l'épître de Jacques parce que Jacques est direct. Jacques, il ne va pas par quatre chemins. Il dit, « Si tu as de la foi, mais tu n'as pas d'action, tu n'as rien. » Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le côté pratique de l'Évangile de Jésus. Et dans Matthieu 13, 1, 23, voici ce qu'il est écrit. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, comme on l'a vu la semaine passée. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux ce matin, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Pierre d'achoppement veut dire une pierre sur laquelle on peut trébucher. Veut dire un obstacle que nous avons besoin, un obstacle physique que nous avons besoin de détourner. Veut dire une occasion de chute ou une cause d'échec. Le même Jésus qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous restaurer, qui vient pour nous guérir, peut être, pour certains, une occasion de chute. Alors, moi, après avoir lu la parabole, j'ai dit, « Seigneur, je veux savoir en quoi tu peux devenir une occasion de chute pour moi. » Je ne sais pas, est-ce que j'ai des gens qui sont intéressés ce matin à savoir? J'en ai une, c'est déjà bien. Et dans Matthieu 11, 6, même le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, qui a fait de grandes choses, qui a fait de merveilles, ce qui Jésus dit, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste, même lui a eu une occasion de chute. Et Jésus a dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute à son cousin. » Alors, si le cousin de Jésus qui a vécu avec Jésus, qui a vu Jésus, qui allait peut-être en vacances, être gardé par sa tante Marie, a vu Jésus, a marché avec lui, a eu un obstacle dans sa vie, je dis, moi aussi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir en quoi Jésus peut être une occasion de chute pour moi. Et Jésus ici parle en parabole. Une parabole, c'est une comparaison, une figure de style, une allégorie. C'est comme des illustrations qu'on donne le dimanche. J'aime Jésus parce qu'il sait comment captiver son audience. Il sait comment aller chercher. Il raconte, et Jésus est sur un bateau, et certainement, quelque part autour de ce bateau, il y a le semeur. Parce qu'en grec, Jésus parle du semeur. Et nous savons ici que le semeur, c'est Dieu lui-même. Certes, il y avait un semeur qui se promenait avec son sac et dans son champ qui semait. Et il y avait toute cette foule. Imaginez-vous Jésus dans la barque en train de raconter cette histoire. Et vous savez, les paraboles, ce n'est pas juste Jésus qui racontait ces histoires en paraboles. Nous voyons dans 2 Samuel 12, par exemple, Nathan, quand il va voir le roi, il lui raconte une parabole pour pouvoir essayer de toucher le cœur du roi. Au lieu de lui dire tout de suite, tu es tombé en adultère, tu as tué quelqu'un, il commence par lui raconter une histoire avec des brebis et des terrains et tout ça. Et le roi fait un jugement. Et quand le roi fait son jugement, il dit, c'est toi celui qui a péché. Alors, la parabole est une méthode aussi pour aller chercher son auditeur sans pour autant l'ébranler, sans pour autant l'insulter. Et Jésus avait cette méthode parce qu'il voulait gagner le maximum de personnes. Jésus ne venait pas pour réprimander. Jésus ne venait pas juste pour offenser. Jésus était des fois provocateur. Ceci dit, Jésus recherchait le cœur de son auditeur. Il crée l'intérêt, il crée une soif, il enseigne des vérités profondes. Il veut capter l'attention de son auditoire, mais il dissimule des vérités aussi. N'oublions pas que dans cette foule, il y a certainement des pharisiens qui cherchent à arrêter Jésus, qui cherchent la phrase, le mot, la raison pour laquelle ils pourraient dire Allons l'arrêter. Allons, emmenons cet homme. Cet homme a blasphémé. Cet homme a dit quelque chose et qui cherche à tourner la foule contre Jésus. Alors Jésus parle avec sagesse. Il dissimule, il masque le message. Et en même temps, il permet à son auditoire de pouvoir découvrir des mystères du royaume. Et ici aussi, il faut comprendre que Jésus a raconté l'histoire à la masse, mais a expliqué la signification en privé à ses disciples. Alors, pour plusieurs, ils ont entendu l'histoire du semeur, mais n'ont pas eu l'explication privée comme les disciples. Alors, c'est un privilège, je pense, que 2000 ans après, nous sommes privilégiés de savoir, d'avoir l'explication. Jésus accomplit les prophéties. Jésus vient par cela nous montrer la différence entre professer Jésus et posséder la vie éternelle. Il y a une grande différence entre un chrétien qui professe Jésus et possède la vie éternelle. Jésus nous donne la différence entre l'enfer et le ciel, le superficiel et le contenu. Et la parole dit qu'il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba au long du chemin. Jésus dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole. Vous donc, écoutez. Ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Vous donc, écoutez. Parce que le même danger qu'avaient les disciples, le même danger qu'avaient les gens en ce temps. Nous sommes face au même danger aujourd'hui. Et moi, je trouverais ça triste de venir à l'église, d'avoir ma parole, de connaître la parole de Dieu, mais de manquer la vie éternelle. Vous savez, c'est une chose de vivre une vie totalement qui est éloignée de Dieu, que de vivre une vie pour Dieu, mais une vie pour Dieu qui n'est pas vraie. Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on donne toute notre attention à cette pierre d'achoppement que peut être Jésus. Et Dieu vient non pas pour nous critiquer, non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous piéger. Jésus ne vient pas pour nous piéger, mais Jésus vient ici attirer l'attention de ses disciples et de la foule, afin qu'ils comprennent qu'il y a une vérité, il y a un danger auquel nous pouvons faire face. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui vient dans la maison, nous attaquer chez moi à la maison et rentre pour nous voler, et je vois un de mes enfants et je le regarde, je ne lui dirai pas de manière tranquille, va dans ta chambre ou tout ça. Si j'ai un moment avec lui, je vais le saisir rapidement et l'embarquer dans sa chambre très rapidement. Pourquoi? Parce que je veux le protéger. Il y a des temps où est-ce que le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Jésus met le peuple. Mais les disciples face à la vérité. Alors, pierre d'achoppement ne veut pas dire piège. Plusieurs s'empêchent de venir dans la présence de Dieu, s'empêchent de servir dans l'Église. Pourquoi? Ah, mais ceux qui vont servir à l'Église vont être plus punis que ceux qui n'ont pas servi. Non. Dieu ne veut pas te piéger. Dieu ne cherche pas à te piéger. Dieu cherche à te donner la vie et la vie en abondance. Alors, nous avons ici Dieu, le semeur. Nous avons ici la semence elle-même qui est Jésus lui-même. Jésus est la semence. Et j'aimerais qu'on prenne attention qu'il n'y a pas de problème avec la semence. La semence, elle est pure, elle est bonne. Le défi que nous allons voir aujourd'hui, c'est le défi de la terre. La terre. La terre, c'est quatre différentes attitudes, quatre différents cœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on sonde notre cœur et qu'on puisse faire une introspective sur nos quatre différentes attitudes qui peuvent démontrer notre altitude. Peut-être tu te dis, mais je vole pas haut, moi. Peut-être c'est à cause de ton attitude. Et Jésus vient non pas pour te condamner, mais afin que tu changes d'attitude. Parce que c'est possible de changer d'attitude. La première attitude que nous voyons, c'est l'indifférence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. L'indifférence. Comme on le voit ici, on voit ce chat qui a plusieurs choses sur lui, des souris sur lui, Et il est indifférent. Vous savez, ah, c'est juste des souris. Et plusieurs peuvent marcher dans cette démarche d'indifférence. C'est celui qui ressemble à une place publique. Il est ouvert à tout ce qui se passe, tout ce qui passe. Ah, je suis d'accord. Si j'entends une doctrine, que ce soit témoin de Jéhovah, que ce soit la doctrine de l'islam, je suis ouvert à tout. Et vous savez, il y a un défi parce que Jésus nous a donné une invitation. Et c'est très difficile de répondre à deux invitations en même temps, la même journée. Et si vous m'invitez le vendredi à 19h et quelqu'un d'autre m'invite à 19h, je dis, je n'ai pas de réponse pour vous, je verrai, mais je ne me présente pas, vous allez comprendre que j'ai dit non à votre invitation. Et très souvent, on fait la même chose avec Jésus. Jésus nous a invités, et Jésus nous a invités à un moment précis, et ceci dit, on prend 4-5 invitations en même temps. Et c'est celui qui veut être ouvert parce qu'il n'est pas certain. Il n'est pas ancré. Moi, je l'appelle le chrétien TDAH. Il a des troubles du déficit d'attention et d'hyperactivité. Il n'est pas méchant. Il ne peut pas concentrer. Il est toujours en activité, mais parce qu'il ne peut pas canaliser sa concentration, il ne peut pas avoir un focus sur Jésus, il n'est pas capable de maturer. Il n'est pas capable de grandir. Et il est dans un lieu dangereux. Et il joue avec l'ennemi. Il est un peu comme ce soldat en pleine guerre pendant que les gens tirent. Lui, il est là en train de se promener en plein milieu du champ de guerre. Nous sommes dans un champ de guerre. Jésus dit que l'ennemi vient pour dérober, pour voler. Et pendant ce temps-là, plusieurs dans le peuple de Dieu sont en vacances. Nous sommes dans le champ. Tant que vous serez en vie, vous êtes en plein milieu du champ. Ah, oh, le pasteur, oh, je viens ici pour une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle! Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire dans le champ. Mais soyez réalistes, nous sommes dans le champ de guerre. Et ce chrétien ou cette personne, c'est la personne qui marche et qui se dit, « Maman, oh non, tout va bien, tout le monde s'aime. » Non, tout le monde ne s'aime pas sur terre. Il y a des millions qui meurent. Je regardais les nouvelles hier en Syrie, des millions qui meurent. Il y a des millions de femmes violées de par le monde. Des problèmes, il y en a. Il y a des millions de personnes ici au Canada qui ont des problèmes de human trafficking, le trafic de personnes humaines. Et pendant ce temps-là, cette personne ici, c'est la personne qui s'enferme. Elle s'enferme dans son monde. Tout ce qu'elle connaît, c'est son freezer, ses popsicles et son monde. Et c'est un danger. C'est un danger de vivre ta réalité, de conduire ton auto, aller au travail, revenir à la maison, vivre dans ta réalité. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent de faim. Il y a des gens qui attendent que tu puisses démontrer qui Christ est en toi. C'est pour cela que nous avons des choses comme Action Nouvel Espoir qui sont en train de grandir. Et Dieu seul sait comment, avec peu, comment, avec un grain de se lever, Dieu va élever de grandes choses. Pourquoi je le dis comme ça? C'est arrivé, c'est pas seulement ici. J'entends ce qui arrive de par la francophonie. Ça a commencé à Nouvelle Vie. Nous avons entendu ce qui arrive à Saint-Jérôme, des grandes choses. À Saint-Jérôme, ils ont juste commencé à aider, à l'église de Saint-Jérôme, aider l'église Source de Vie avec le pasteur Jean-Marie, aider des gens pendant qu'ils déménagent, aider les gens, juste cela avec un camion. Et aujourd'hui, Dieu leur donne une visibilité. Dieu ouvre des portes. Mais pour cela, il faut que les chrétiens commencent à réaliser que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Nous étions ici cette semaine et je remercie le Seigneur parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui étiez ici pour le succès de cet événement. Et je disais à quelqu'un, pour pêcher le poisson, il faut être dans la mer. Et c'est pour cela que nous étions ici pendant cette journée. Nous avions une fête alternative à Halloween, mais nous étions dans la mer parce qu'il y a des poissons dans la mer. Trop de chrétiens, nous essayons d'attraper les poissons, mais nous les cherchons sur terre, dans les lieux publics. Et Dieu te dit qu'il est temps d'aller dans la mer de ce combat. Dans Hébreux 11:20, on parle d'Ésaü. On dit que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Les deux étaient bénis, mais un d'entre eux a pris ça à la légère, Ésaü. Ésaü était béni. C'est par la foi qu'il les a bénis. Les deux ont reçu la même bénédiction par la foi. Mais ce qui a
a changé la bénédiction d'Ésaü, c'est sa négligence. Qu'est-ce que tu négliges? Qu'est-ce que tu négliges? L'attitude d'indifférence ne produit jamais de fruits. Et cette attitude d'indifférence, de par mes études de la parole de Dieu, de par mes études aussi dans la prière, j'ai découvert, c'est dû à deux choses, le perfectionnisme et la moquerie. Quelqu'un qui est indifférent se moque toujours de ce qui se passe. Et il a un certain perfectionnisme. Parce qu'il a peur d'être en avant, parce qu'il sait ce qu'il fait dans le lieu privé. Vous savez, quand tu te moques toujours, tu commences à savoir ce que les gens pensent dans la salle. Et Dieu vient de dire ici qu'il est temps que tu abandonnes cela, les voies du perfectionnisme et du moqueur. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie du moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Et j'aimerais te dire ce matin, un expert était une fois un débutant. Un expert était une fois un débutant. Pour ça, notre église n'est pas une petite église, mais c'est une église en croissance. Et je le dis souvent ici, je sais que Pierre qui vient ici n'a pas commencé avec une belle voix comme ça. Oui, Dieu lui a donné des dons, des talents, mais il a développé ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné un talent et il a développé lui. Dieu nous donne des talents et nous les développons. La même chose pour chacun d'entre nous. Ceci dit, le cœur indifférent ne voit pas ce que Dieu peut faire en lui parce qu'il est trop occupé non pas à maturer, mais à vouloir arriver à un lieu qui demande un travail, qui demande de l'effort, qui demande de la souffrance. Si tu ne transpires pas avant, tu vas transpirer après. Et Dieu te demande de transpirer avant. Transpirant afin de progresser. Est-ce que tu vas par les œuvres? Non, tu ne vas pas par les œuvres. Tu marches par la foi parce que Dieu t'a donné quelque chose. C'est pour cela que tu veux le multiplier. C'est pour cela qu'en tant que prédicateur, ici, nous nous préparons. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'agit pas les dimanches, mais quand nous nous préparons dans le lieu secret, nous savons que quand nous transpirons avant, l'inspiration est beaucoup plus facile. Le deuxième caractère ou la deuxième attitude que nous voyons, c'est le sentimental. Et Jésus dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ce que j'aime avec les vérités de Jésus, c'est qu'elles transcendent les temps. Je lisais ceci, je dis, waouh, on dirait que Jésus était en 2013. Et cette personne, cette attitude sentimentale, c'est cette personne qui reçoit la parole avec émotion et avec joie. C'est cette personne qui vient et qui te dit, « Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le faire demain. » Mais qui est superficiel. Il est toujours touché. Moi, je l'appelle le papillon charismatique parce qu'il aime les fleurs et il va de fleur en fleur pour trouver le pollen. Il va de milieu en milieu, de mouvement en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il cherche l'instantané. Malheureusement, la semence de Dieu, Jésus, n'est pas du café instantané. Pour ceux qui aiment le café, Jésus, c'est du café pur. C'est du bon café corsé. Cette personne est aussi comme quelqu'un qui coupe des oignons. Vous savez, quand vous coupez des oignons, vous pleurez. Alors aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas touchées par ce qui arrive dans le monde, mais sont plus touchées par leur oignon. Ils pleurent toujours. Mais cette personne est toujours touchée. Est toujours touchée. Est très sentimentale. Et les sentiments ne sont pas mauvais, mais vous savez, c'est bon d'être ému, mais Jésus a été ému de compassion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri la foule. Jacques 2 dit, à quoi ça sert de prier et de dire à quelqu'un qui te demande du pain, je vais prier pour toi? Non, il te faut donner quelque chose. À quoi ça sert d'être dans un lieu, quelqu'un, une sœur, et je te donne quelque chose de pratique. Il y a des sœurs, une sœur, un frère ici qui peut-être a vécu des temps difficiles, ou peut-être son mari l'a quitté pour telle ou telle autre raison. Peut-être elle n'arrive pas à payer son loyer. À quoi ça sert de lui dire, sœur, je vais prier pour toi? Non. Non, ce n'est pas ça l'Église de Dieu. Peut-être toi, tu ne peux pas donner. Mais peut-être que tu as la capacité de dire à 10 personnes, si on se met ensemble, voilà ce qu'on va faire. On va faire un pool, on va donner 10 $ chacun, puis on va payer son loyer. C'est ça l'Église de Dieu. C'est ça l'Église de Dieu. Elle se nourrit de l'extérieur et non de l'intérieur. Et le danger de se nourrir de l'extérieur, si le seul temps que tu pries, c'est quand tu viens ici. Si le seul temps que tu loues, c'est quand tu viens ici. Si le seul temps que tu es content, c'est quand tu entends quelqu'un parler de Dieu, il y a un défi. C'est que quand tu ne l'entendras pas, tu vas sécher. Tu vas sécher. Les persécutions l'abattent facilement parce qu'il n'y a pas de racine. Et j'ai écrit ici, tomber en amour, c'est facile. Le coup de foudre pour ceux qui sont mariés, c'est facile. Mais c'est vivre ensemble. Et les hommes mariés peuvent dire amen en silence. On veut pas qu'il y ait des problèmes ce soir. Le coup de foudre, c'est simple. Le coup de foudre, pour ceux qui ont déjà été en amour, ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. On connaît la chanson. Mais ce cœur qui est moins lourd, vivre ensemble, c'est autre chose. Vivre ensemble. Moi, c'est ce que je dis dans les cours de mariage. Ah, tu l'aimes, OK. Est-ce que tu es prêt à vivre avec? Le pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es prêt à vivre avec. Là, c'est autre chose. Vivre avec. Je pense que plusieurs personnes qui vont vers le mariage doivent se poser la question, est-ce que je suis prêt à vivre avec? Et plusieurs chrétiens viennent au Seigneur, mais ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Je sais qu'on dit de part et d'autre que la vie avec Christ, il y a prospérité, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses positives qui viennent avec Christ, mais vivre avec Christ n'est pas simple. Lui-même l'a dit, le chemin est étroit. Et de plus en plus dans ma vie, je dis, mais Jésus, le chemin est donc bien étroit. Mon chemin devient étroit. C'est comme si tout ce que je fais, il devient étroit. Puis c'est comme si Jésus me disait, bien, choisis un autre chemin. Et là, je suis allé dans la parole de Dieu. Le chemin est étroit. Étroit. Mais on veut le grand chemin. Mais si tu veux le grand chemin, il y a des grandes chances que tu ne sois pas sur le bon chemin. Des grandes chances. Parce que si lui-même, Jésus, a dit que le chemin est étroit et tu es dans le grand chemin, je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un hint, un indice. L'autre cœur que nous trouvons, c'est le cœur partagé. Et Jésus nous dit ici, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est quelqu'un qui est touché et convaincu que Christ est le chemin, cependant il est mêlé par les plaisirs du monde. Je disais hier dans une conversation avec mon épouse, j'ai dit, c'est drôle. Je n'ai jamais vu un jardin de belles fleurs qui prennent le dessus sur la mauvaise herbe. Quand vous ne vous occupez pas de votre jardin, automatiquement, la mauvaise herbe va prendre le dessus. Il faut soigner ton jardin. Et c'est comme si Dieu me disait que notre responsabilité, c'est de venir dans sa présence afin qu'il soigne le jardin, qu'il enlève la mauvaise herbe. Parce que, vous savez, les épines, ça ne grandit pas comme ça, là. Ça prend un certain temps. Ça prend de la paresse. Ça prend du ressentiment, de l'amertume. Ça prend des mauvaises expériences et à un moment, on est étouffé. Et Dieu nous demande de venir dans sa présence. Et en venant dans sa présence, la première chose que ça demande, c'est de l'effort. Vous êtes venu ce matin, il a fallu que vous sortiez de votre lit. C'est de l'effort. C'est pas facile. Lire votre Bible, ça demande l'effort. Ça demande de la discipline. Et pour grandir, il nous faut mettre de l'effort. J'aime beaucoup Mark Twain qui dit la chose suivante, par exemple. Il déconseille aux gens la polygamie parce qu'il dit que Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. » Très difficile. Et je dirais la même chose pour nous, enfants de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir l'argent et servir Jésus. Ça ne veut pas dire que l'argent est mauvais. Il y a un temps pour produire de l'argent. Mais pourquoi je produis de l'argent? Je ne peux pas servir mes plaisirs, les choses que j'aime. Hein? Moi, j'aime beaucoup le football américain. Et j'aime regarder le football. Et j'aime beaucoup les ordinateurs et la programmation. Mais je ne peux pas servir et la programmation. Ceci ne veut pas dire que de temps à autre, je ne peux pas regarder une game de football. Et servir Christ en même temps. Il y a un temps pour ce qui est activité, et il y a un temps pour Christ. Et combien de temps je donne à mon activité? Et combien de temps je donne à Christ? Et très souvent dans la vie, on va dire, oh, ben, je vais lui donner du temps plus tard. Est-ce que tu sais c'est quand plus tard? Est-ce que tu sais combien de jours tu as sur terre? Et ici, je pense que Christ vient nous révéler une chose. Il vient nous dire, écoute, concentre-toi dans l'essentiel. Qui sont ceux? Nous avons des constructeurs ici dans la salle. Et j'ai vu, pour avoir vu certains de mes beaux-frères construire, je voyais la transpiration qu'ils avaient à la fondation. Une fois, je travaillais avec un de mes beaux-frères que je ne citerai pas, puis il m'a dit de creuser. Je veux dire, la pire des jobs dans la construction, c'est creuser. C'est plate! Le sol est dur et à un moment, là, c'est juste pas intéressant. Mais si tu ne creuses pas bien, tu vas détruire tout le travail. Et plusieurs d'entre nous, on a des défis à creuser. Parce que creuser n'est pas un travail qui entraîne un plaisir. Je n'ai jamais vu des gens aller dans un site où est-ce qu'on est en train de bâtir une fondation. Quelle belle fondation! Un groupe de personnes en train de regarder la fondation et l'admirer. Prendre des photos de la fondation, la mettre sur Facebook. Non, c'est la maison qu'on veut voir. Mais cette maison qui est belle est sur une fondation. Est sur une fondation. Et cette personne ici, qui est partagée, n'a pas de fondation. Elle n'a pas de fondation. Elle est très facilement étouffable. Son défi, c'est quoi? C'est qu'elle veut plaire à tout le monde. Et ici, j'aimerais te délivrer d'une chose. Jésus ne t'a pas appelé à plaire à tout le monde. Jésus ne t'a pas appelé à plaire à tout le monde. Jésus lui-même ne plaisait pas à tout le monde. Sinon, il n'aurait pas été sur une croix. Et être chrétien ne veut pas dire qu'on va plaire à tout le monde. Être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est des gens sur qui tout le monde peut marcher, des mauviettes, des gens sans caractère. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et c'est pour cela que Jésus dit que dans la nature, en d'autres mots, la bonne semence n'étouffe jamais la mauvaise. La seule chose qui peut emmener la bonne semence à étouffer la mauvaise semence, c'est Dieu lui-même. Tu enlèves Dieu de l'équation, tu enlèves la volonté de pouvoir enlever la mauvaise semence, et qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons de la mauvaise semence en nous. Jésus continue avec cette attitude qui monte notre altitude. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Une chose que j'ai retenue ici, c'est que tout le monde ne donne pas le même fruit. Il y a même étant dans la bonne terre, il y en a un qui va donner 100, l'autre va donner 60 et l'autre va donner 30. On n'est pas appelé à faire la même chose et on n'est pas appelé à avoir le même impact. Il y a des gens ici qui vont s'élever et quand ils vont s'élever, ils sont appelés à toucher 100. Et il y a des gens ici qui quand ils vont s'élever, ils vont en toucher 60. Il y en a qui vont toucher 30. Mais non, ne sois pas jaloux de ton voisin. C'est Dieu qui donne. Dieu donne le don. Dieu donne le talent. Mais sois planté, sois préparé, sois labouré, sois brisé par le Saint-Esprit. Et vous savez, la mauvaise herbe qui est déracinée sera jetée au loin par lui. Sois avide des choses spirituelles, avide de Dieu et soif de lui. Et ce cœur qui comprend, ce cœur qui librement s'approche. Nous voulons avoir le cœur qui librement s'approche. Sans méditation de la parole, on ne peut prendre racine. On ne peut prendre racine. Le semeur ne désire pas tes émotions. Le semeur ne désire pas, et ici, Christ dit au travers de cette parabole, « Je ne désire pas quelqu'un qui vienne et me dise, j'ai le désir de te suivre. » Il ne veut pas quelqu'un qui a le désir, il veut quelqu'un qui le suit. D'ailleurs, Jésus lui-même dira dans une parabole qu'il y avait deux fils auxquels un père avait demandé un travail à faire. L'un avait dit, « Je le ferai plus tard et a refusé de le faire. L'autre a dit oui et ne l'a pas fait. Et Jésus a dit, qui a fait la volonté du Père?
Et les disciples ont répondu, celui qui a fait le travail.
Alors, Jésus ne demande pas, ne désire pas
un coup de foudre. Jésus veut vivre avec toi. Il veut vivre avec toi.
Et ce matin, de manière très simple, comme ses disciples, quand ils ont reçu cette parole, comme ses disciples, après avoir eu l'explication, Jésus dit certaines choses. Je viens afin que ceux qui voient ne voient pas. Je viens afin que ceux qui entendent n'entendent pas. Et quand on va plus loin dans le texte, quand on regarde le texte, Jésus dit quelque chose. Et c'est toute une richesse. Jésus dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Le même Jésus qui dit, je viens afin que celui qui voit ne voit pas, dit, leur cœur est devenu insensible. Ce n'est pas Jésus qui t'aveugle, c'est ton cœur qui est peut-être devenu insensible. Peut-être les expériences de la vie. Il y a des expériences qui nous rendent insensibles. Je ne sais pas ce que tu as vécu, peut-être tu as eu des défis dans une relation et tu dis, ah, c'est plus possible. Peut-être que tu as eu des défis avec les églises et tu dis, c'est plus possible. Peut-être que tu as eu des défis qui sont rattachés à la vie avec Jésus lui-même, et tu dis, c'est plus possible. Mais ce matin, j'aimerais te dire, n'endurcis pas ton cœur. Ton cœur, peut-être, est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Comment peut-on fermer nos yeux? Aujourd'hui, nous avons eu des formulaires pour Action Nouvel Espoir. Il y a la pauvreté autour de nous. On peut fermer nos yeux. Dire, mettre ça de côté. Je vous demande quelque chose de pratique aujourd'hui. On va sortir d'ici, on va sortir avec ces coupons. Il y a des gens autour de nous qui ont un besoin. Il y a des gens dans nos milieux, il y a des gens. Et s'il n'y en a pas autour de nous, je vous dis, cherchez-en. Cherchez-en. Et vous allez en trouver assez facilement. C'est notre appel. C'est l'appel de l'Église. Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne comprennent pas de leur cœur. Mais ils ont peur de quoi? Jésus a dit, ils ont peur que je ne les guérisse. Parce qu'il y a une guérison quand nous pensons aux autres. Il y a une guérison quand nous sommes plantés dans la bonne terre. Il y a une guérison à la dépression. Il y a une guérison à l'anxiété. Il y a une guérison dans le lieu où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous disons, il n'y a pas de débouché, il y a une guérison. Je lisais le livre des Actes. Vous savez, le livre des Actes est plein de guérisons. Ça commence par une guérison spectaculaire. Pierre et Jean sont devant le temple et il y a ce paralytique. Et ce n'était vraiment pas planifié pour Pierre et Jean d'arriver devant ce paralytique qu'ils ont certainement vu plusieurs fois devant le temple. Et ils voient le paralytique demander de l'argent. Et certainement, ils lui ont déjà donné de l'argent. Et ce jour-là, ils s'arrêtent et disent, « Je n'ai pas de cash aujourd'hui, mais ce que j'ai, je te le donne. » Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Ils avaient reçu, dans la banque spirituelle, ils avaient reçu quelque chose de Jésus lui-même. Et ils disent, « Au nom de Jésus, lève-toi. » En d'autres mots, « Je n'ai rien, mais je dois faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais je vais faire quelque chose pour toi. Au nom de Jésus, lève-toi. » Et on voit cette Église qui sort, cette Église qui s'oublie. Cette Église, au lieu d'avoir un œil sur moi, au lieu d'avoir un œil sur notre réalité ici, cette Église qui pense à ailleurs. C'est pour cela que l'Église Nouvel Espoir a décidé, nous avons eu notre Assemblée Générale, nous avons décidé de nous investir avec Action Nouvel Espoir. Nous avons décidé aussi de donner à une Église plus jeune que nous. Notre Église va donner à une Église plus jeune que nous, l'Église Altitude. Et cette Église qui vit une réalité qui est différente des nôtres, et je crois qu'en tant qu'Église, qu'en le faisant, c'est un acte de foi, on vous dit de donner vos dîmes, on vous dit de donner vos offrandes, l'Église va donner sa dîme. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à embarquer avec nous? Une église qui avance et qui pense aux défavorisés, qui pense aux âmes, c'est une église qui va grandir. Peut-être vous dites, oh, pasteur, je suis bien avec les voisins que j'ai, je suis bien avec les gens qui sont ici à l'église. L'image que je vous donne, et c'est pour cela que je n'aime pas le terme petite église, je ne dis jamais à mon enfant, j'aimerais que tu restes petit. Même si j'aime ses joues, même si j'aime sa taille. Mais je sais que quand il grandit, quand il va pouvoir se défendre tout seul, quand il va acquérir de l'intelligence, il va pouvoir être indépendant. Le succès d'un père, c'est un enfant indépendant. La même chose avec une église. Le succès d'une église, c'est quand elle devient autonome. C'est quand elle est capable de s'oublier elle-même et de penser aux autres. C'est quand elle produit des enfants. C'est quand elle produit des leaders. C'est quand elle a un impact dans sa communauté. L'Église existe afin d'être l'espoir de la communauté. Mais comment cette Église sera-t-elle l'espoir si elle ne rayonne pas? Et Jésus, ici, au travers de cette parabole, m'a parlé personnellement et m'a dit, je ne veux pas que tu sois sentimental. Je ne veux pas que tu sois partagé. Je veux que tu sois dans la bonne terre. Je veux que tu soutiennes. Je veux que tu décides de soutenir. Mais comment allons-nous décider de soutenir s'il n'y a pas d'engagement? Alors aujourd'hui, je vais te lever un défi. Pendant tout ce mois ici, il y aura un défi. Nous allons parler d'action. Nous allons parler d'action. Et tu peux dire autour de toi qu'à notre Église, on parle d'action. Nous allons parler de choses qui vont changer les vies de tous et chacun. Dieu agit. Nous avons commencé cette série de fois. Deux personnes de cette Église ont trouvé du travail. Deux personnes de cette Église. Ça fait des mois et des mois qu'ils cherchaient du travail. Ils ont trouvé du travail. Je ne pense pas que c'est accidentel. Je crois que Dieu agit. Dieu agit. Et nous savons que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Alors, ce matin, j'aimerais t'encourager. Peut-être que tu es venu ici et tu te retrouves un peu dans le sentimental. C'est-à-dire, j'aime Jésus. Peut-être tu as eu de la culpabilité quand je disais ces mots, mais ce n'est pas un esprit de culpabilité que je veux te donner ce matin, c'est un esprit de conviction. C'est un choix, ta volonté. C'est ta volonté qui change tout. Ta volonté peut tout changer. Si tu as la volonté d'aller te remettre au pied du maître, tu peux tout changer. Peut-être tu dis, je ne vois pas comment je vais me placer dans la bonne terre. Et pratiquement, comment le faire? Pratiquement, comment le faire? Je vais te le dire très simplement. La première des choses que tu dois faire, c'est t'approcher de Christ. Avec ta Bible, avec la prière. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est t'engager à l'Église. T'engager à l'Église. Trouve quelque chose à faire. Trouve, même de temporaire. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas en vacances. Ça ne veut pas dire que nous allons prendre tout ton temps. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours après toi, qu'on va t'appeler. Non. On est une Église qui respecte ton temps privé. Mais trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Parce que si tu grandis dans le corps, vous savez, si ma main ne bougeait pas, on doit la couper. Un corps qui ne bouge pas dans l'Église de Dieu est dangereux pour l'Église de Dieu. Trouve ton lieu. Sers. Cette Église a besoin de personnes qui servent. Cette Église, pour grandir, cette Église a besoin de personnes qui sont plantées dans la bonne terre. Et Dieu me dit qu'il ouvre un nouveau chapitre à Ottawa. Et tu fais partie de ce chapitre. N'attends pas que le train parte. Trop de gens sont comme ce drummer des Beatles qui a quitté le groupe quelques mois avant leur gros hit. Oh non, c'est rien, c'est pas bon. Et là, quand ils ont eu les voyages et quand ils ont eu toute la chose, oh, j'étais avec eux. Ne sois pas de ceux qui vont dire « j'étais avec eux ». Parce que je te dis que Dieu est présentement en train de faire une grande œuvre. Regarde autour de toi et vois ce que Dieu a fait au travers d'une petite activité. Vous êtes ceux qui avez levé 1 600 $ pour une activité. Une activité des pains et des poissons. Regarde autour de toi. C'est un miracle. Vous êtes ceux qui aidez des familles. Vous êtes ceux, nous avons une famille, nous avons quelqu'un qui va être réuni avec son épouse ici. Pourquoi? C'est grâce à vous. vous changez votre monde une personne à la fois. Une personne à la fois. Alors ne te décourage pas parce que c'est une personne à la fois. Parce que ça commence une personne à la fois. Et comme une plante, une personne à la fois, quand elle devient un baobab, tout à coup, tout le monde admire le baobab. Oh, j'avais ici, tout le monde était plein de joie. Alors, mon appel est très simple ce matin. Si tu ne donnes pas, donne. Et j'aimerais juste mettre une parenthèse aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, « Pasteur, c'est quoi la différence entre la dîme, l'offrande, et ce que je donne à l'Église? » Premièrement, on ne condamnera jamais quelqu'un ici pour ne pas donner la dîme. Okay? Ce n'est pas un message sur la dîme, mais je pense que c'est essentiel en tant que pasteur que j'ouvre cette parenthèse. Tu n'es pas obligé. Tu donnes librement. Ceci dit, pour que l'Église de Dieu avance, il faut qu'il y ait des gens qui se donnent. Nous avons des gens ici qui donnent plus que leur 10 %. Nous avons des gens dans ce lieu, dans cette salle, qui donnent plus que leur 10 %. Pourquoi Dieu a demandé 10 %? Pour la simple chose que, pour que n'importe quelle organisation avance, nous avons besoin de ce qui s'appelle l'argent. Dis à ton voisin, ils ont besoin d'argent. Je viens de briser la bulle, là. Nous avons besoin d'argent. J'ai des gens qui, même quand ils ne sont pas dans ce lieu, ici, même quand ils sont occupés avec leur travail, envoient leur pain et leur poisson à l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient que cette Église doit grandir. Alors, je t'invite, toi, dans le lieu où est-ce que tu es, Seigneur, est-ce que je suis appelé à habiter dans cette maison? Est-ce que je suis appelé à manger? Vous savez, quand tu manges à Pizza Hut, tu ne vas pas payer à côté à Gabriel. Tu payes à Pizza Hut. Si tu manges bien ici, là, Seigneur, j'aime ça. J'aime la nourriture. Je suis OK. Puis je veux voir, là, je veux voir. Si tu as des questions sur les finances, comment on gère tout ça, viens nous poser. Il n'y a pas de question qui tue à Nouvel Espoir. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Eux, ils sont en train d'avancer. Puis on dit, c'est correct, ça. Moi, le donner, je ne suis pas certain encore, mais une offrande de temps en temps. Une offrande, c'est quoi? Une offrande était donnée dans le temple en signe de reconnaissance. Tu es reconnaissant pour ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu es reconnaissant. Nous avons des gens ici qui donnent leur dîme, et ce qu'ils donnent en plus, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Et pourquoi je le dis ici? Parce que la personne qui est plantée, cette personne est reconnaissante aussi. Et c'est avec la reconnaissance qu'une église évolue. Mais il y a aussi des dons ponctuels, comme la mission. Comme vous avez entendu, Action Nouvelle Espoir, ce n'est pas seulement pour ici. Nous voulons donner de la nourriture aux gens à l'extérieur. Nous voulons donner des cadeaux aux gens de l'extérieur. Nous voulons... La souffrance n'est pas seulement dans ces bâtiments. Nous avons un jeune qui vient ici, qui vient d'un milieu où est-ce que les parents vont présentement dans une banque alimentaire. Et j'ai dit aux parents, nous allons avoir une banque alimentaire bientôt. Nous allons pouvoir vous aider. Hé, ça fait du bien de dire ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, hein, ça fait du bien de dire, je vais pouvoir vous aider. Au lieu de dire, je vais prier pour vous. Seigneur, fais qu'il trouve la nourriture. Non, je vais trouver de la nourriture pour vous. Je vais trouver de la nourriture pour vous. Alors, c'est à vous de vous investir où est-ce que vous voulez. À l'Église du Nouvel Espoir, j'y crois fermement. C'est Dieu dans son miracle. C'est Dieu avec sa main toute puissante. Nous ne sommes pas appelés à mendier. Nous ne sommes pas appelés à vous donner semaine après semaine de la culpabilité sur les finances. On n'est pas appelé à ça. Moi, je crois que Dieu va faire bien au-delà. On appelait ce lieu le miracle de la rue Innes. Ça va être le miracle d'Ottawa. C'est ça que ça va être. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes comme vous qui auront cru au miracle. Père Céleste, je te remercie pour ce que tu fais. Père Céleste, convainc les cœurs. Convainc ceux qui sont partagés. Convainc celui qui est sentimental ce matin. Ô Seigneur, touche le cœur, Seigneur, le cœur de Pierre, Seigneur, change-le en cœur de chair, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te demande que cette semence qui est toi-même, cette semence qui a été donnée par le Père, puisse se révéler à tous et chacun ce matin. Telle est ma prière. Révèle-toi afin qu'ils comprennent pourquoi peut-être ils ne portent pas de fruits. Pourquoi ils ne grandissent pas. Pourquoi dans les tribulations, ils paniquent toujours. Seigneur, tu n'as pas dit que nous n'aurions pas de tribulation, mais tu as dit que dans la tribulation, tu serais avec nous. Permets à ton peuple de réaliser cela. Ô Seigneur, consolide. Consolide par ton esprit, Seigneur, ton Église. Affermis, ajoute, Seigneur, à ton Église, afin que nous puissions dire, comme dans le livre des Actes, et tous les jours, Dieu ajoutait à son Église. Ô Seigneur, tu connais les besoins de ta maison, mais tu connais aussi les besoins de tous et chacun. Il y a des gens dans ce lieu qui souffrent, Seigneur. Seigneur, réponds aux prières, restaure, transforme, guéris. Guéris, Seigneur. Touche avec puissance, Seigneur. Et surtout, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi comme tu t'es révélé aux disciples. Permets à ton peuple de comprendre les richesses du royaume, les clés. C'est une clé que tu nous donnes ce matin, une clé du royaume. Permets-nous de saisir notre destinée. Permets-nous de saisir cette clé afin que nous puissions déployer notre potentiel. Il y a un potentiel à être déployé, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ceux qui vont s'attacher à l'Église, pour ceux qui sentent ce matin l'appel de s'attacher à ta maison, l'appel de décider de faire quelque chose, de faire un ministère, de se placer quelque part. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que je sais que, Seigneur, toi, tu n'envoies pas ta parole en vain. Et cette parole que tu m'as donnée, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je relâche, de par ton esprit, Seigneur Jésus, je relâche, Seigneur Jésus, ce qui libère. Je relâche, Seigneur Jésus, ce qui convainc. Je relâche ton esprit qui seul est capable d'emmener un peureux à avoir du courage. Quelqu'un qui a de la culpabilité à être libéré. Oh Jésus, quelqu'un qui a de l'amertume à être délivré de son amertume. Et je te remercie et je te rends grâce. En ce dimanche matin, je te rends grâce pour ce que tu fais, Seigneur. Et je te remercie pour les pains et les poissons. Je te remercie pour le départ, Seigneur Jésus. Je te remercie pour la semence, Seigneur. Cette nouvelle espoir et ce mois, nous allons déployer. Cette Église va commencer à déployer son potentiel, Seigneur. Par la foi, je le proclame, Seigneur. Une saison nouvelle pour ta maison. Un jour nouveau pour ta maison. Dans ton nom tout-puissant. Amen.
Vous venez d'entendre un message provenant de l'Église Nouvel Espoir au 2224 rue Ennis à Ottawa, Ontario, K1B4C4. Nos heures de service sont les dimanches de 10h à 11h30. Notre numéro de téléphone est le 613-824-1339. Que Dieu vous bénisse.